VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mercredi 6 décembre 2023. À la COP28, les différentes parties campent sur leur position, rendant difficiles les négociations sur les énergies fossiles. Ici aux États-Unis, encore une fois, Donald Trump refuse de participer à l'ultime débat des candidats républicains avant les primaires. Au Burkina Faso, la justice ordonne la suspension des réquisitions des civils que l'armée veut envoyer au front. La Mauritanie et le Tchad ouvrent la voie à la dissolution de l'alliance anti-djihadiste G5 Sahel.
Ce projet, donc, c'est une force conjointe et une organisation très dépendante des procédures budgétaires, logistiques, administratives des partenaires étrangers.
Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network, nous situera sur les implications de la dissolution du G5 Sahel dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. À mi-chemin de la COP28 à Dubaï, le président de la conférence, Sultan Al Jaber, est sous pression pour faire progresser les discussions sur les énergies fossiles, le pétrole, le gaz et le charbon, responsables des deux tiers du réchauffement climatique. Un nouvel accord est attendu. Nathalie Barge.
Nous avons un texte de départ sur la table, mais c'est une compilation de vœux de posture, a déclaré à la presse le chef de l'ONU Climat, Simon Stier. L'Arabie saoudite s'est opposée à toute suppression ou réduction des énergies fossiles. La Chine, l'Inde et les pays arabes ont demandé de supprimer le paragraphe sur l'énergie et la Russie veut que le gaz naturel soit reconnu comme énergie de transition. Le commissaire européen chargé du climat, Wopke Hoekstra, a répété que l'Union européenne souhaite que cette COP marque le début de la fin pour les énergies fossiles. La ministre espagnole de la transition écologique, Teresa Ribera, dont le pays préside l'Union européenne, a dit attendre que le président de la COP se comporte en médiateur honnête et fasse preuve de leadership. L'émissaire américain John Kerry a demandé que chacun se comporte en adulte sur cette question et l'Alliance des petits États insulaires a de son côté appelé à une accélération urgente des discussions. La COP28 marque une pause jeudi et les ministres vont prendre le relais des discussions ce week-end pour la deuxième partie de la conférence sur le climat à Dubaï.
Au Proche-Orient, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières ce mercredi sur la grande ville assiégée de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, où les habitants tentent de s'abriter des bombardements et des combats parmi les plus intenses en 2 mois de guerre contre le Hamas. Salah a réclamé aujourd'hui que le comité international de la Croix-Rouge puisse avoir accès aux 138 otages toujours détenus à Gaza par le Hamas et des groupes affiliés. L'aide n'arrive pratiquement plus à Khan Younes et l'accès aux zones situées plus au nord est coupé depuis la reprise des combats. Ici aux États-Unis, des candidats républicains à l'élection présidentielle américaine de 2024 s'affrontent ce soir lors d'un nouveau débat, encore une fois boycotté par le favori Donald Trump à 40 jours des premières primaires de leur parti. Les détails avec Jacques Aristide.
Comme il l'avait fait pour les 3 précédentes émissions, l'ancien président a choisi de ne pas prendre part au rendez-vous télévisé de ce mercredi. Donald Trump invoque son avance vertigineuse dans les sondages. L'ex-ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l'entrepreneur Vivek Ramaswamy et l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie sont les 4 républicains qui vont être réunis ce soir dans l'État conservateur de l'Alabama lors de ce 4e débat organisé par la chaîne News Nation. Il s'agit d'une étape importante de la longue route vers la Maison-Blanche. À partir du 15 janvier, les candidats à l'investiture républicaine vont en découdre lors d'une série de primaires. Ils débuteront dans l'Iowa avant d'enchaîner en quelques semaines les scrutins dans le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud, une grosse échéance électorale début mars. Le vainqueur de ces primaires, officiellement adoubé par le Parti républicain en juillet, sera opposé au candidat démocrate, très probablement le président Joe Biden, à l'élection de novembre prochain.
L'élu républicain Kevin McCarthy a annoncé aujourd'hui qu'il démissionnait de son siège au Congrès en Californie, 2 mois après son éviction historique du poste de président de la Chambre des représentants. L'annonce de M. McCarthy marque la fin d'un parcours ambitieux au Congrès avant qu'un groupe de conservateurs de la droite dure organise sa destitution en octobre. Kevin McCarthy est le seul président de l'histoire à avoir été démis de ses fonctions par un vote. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé aujourd'hui que Kiev parviendrait à vaincre la Russie et à remporter une paix équitable, alors que le maintien de l'aide militaire et financière vitale des États-Unis reste incertain. Ces remarques interviennent alors que des incertitudes entourent l'avenir d'un programme d'aide de 60 milliards de dollars débattu au Congrès américain est bloqué depuis des semaines. Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu aujourd'hui à Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, où il s'est entretenu avec son homologue Mohamed Ben Zayed avant de s'envoler pour l'Arabie saoudite. Vladimir Poutine doit rencontrer par la suite le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salman. Le Kremlin a indiqué qu'il discuterait de la coopération énergétique, notamment dans le cadre de l'OPEP, dont les membres pompent plus de 40% du pétrole mondial.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine, la Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution du G5 Sahel créée en 2014 pour faire face au djihadisme après le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le point avec Dili Diko.
La Mauritanie et le Tchad prennent acte et respectent la décision souveraine de retrait du Burkina Faso et du Niger après l'annonce de celui du Mali en 2022, disent les deux pays. La Mauritanie et le Tchad ont annoncé qu'ils mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la convention portant création du G5 Sahel pour acter la dissolution. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Elle est minée par des lourdeurs institutionnelles et instrumentalisée par l'extérieur. En 2017, les pays membres ont mis en place une force militaire dont l'efficacité est restée très limitée. La violence a continué à se propager. Le Niger, le Burkina et le Mali ont créé une alliance des États du Sahel et leurs ministres des Affaires étrangères viennent de proposer la création d'une confédération.
Au Burkina Faso, le tribunal administratif a décidé de suspendre les réquisitions des personnes à envoyer au front. Des leaders syndicaux d'organisations de la société civile et des journalistes ont été réquisitionnés par l'armée. Le juge a estimé que ce n'est pas pour la sécurisation du territoire, mais à cause de leurs opinions. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Le juge a ordonné la suppression de la décision de réquisition d'au moins 7 leaders syndicaux, d'organisations de la société civile et des journalistes. Il a estimé que le motif invoqué par l'armée pour réquisitionner ces personnes n'était pas suffisant. Selon le tribunal administratif, il existe un lien entre ces personnes réquisitionnées et certaines de leurs opinions. Selon le juge, ces personnes ne sont pas réquisitionnées pour aller sécuriser le territoire, mais c'est une sorte de restriction de leur liberté. Il a donc décidé de la suspension de ces réquisitions et a demandé au commandement des opérations du Théâtre national de mettre fin au processus de déploiement au front de ces personnes. L'État a la possibilité de faire appel depuis vendredi. Dr Daouda Diallo du collectif contre l'impunité et la stigmatisation, qui était lui aussi sur la liste des réquisitionnés, est porté disparu. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les Nations Unies ont demandé aujourd'hui une enquête impartiale après une attaque de drones de l'armée nigériane ayant tué accidentellement dimanche au moins 85 villageois célébrant une fête musulmane. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a insisté pour qu'Abuja demande des comptes aux responsables tout en donnant des réparations aux victimes et à leurs familles. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a ordonné mardi l'ouverture d'une enquête après que l'armée a reconnu qu'un de ses drones visant des groupes armés avait accidentellement frappé le village de Tudun-Biréhi dans l'état de Kaduna. Soudan, les pourparlers organisés sous l'égide de l'Arabie saoudite et des États-Unis en vue de mettre un terme au combat ont de nouveau échoué. L'absence de progrès lors des pourparlers de Jeddah a réduit à néant les espoirs de résolution d'un conflit qui a déplacé plus de 6,5 millions de personnes et fait des milliers de morts. Un porte-parole du Département d'État américain a déclaré que les médiateurs sont prêts à poursuivre les discussions, mais les parties parties doivent démontrer qu'elles sont en mesure de respecter leurs engagements. Et puis, plus de 50 civils ont été tués dans des attaques en Éthiopie en novembre, a dénoncé aujourd'hui la Commission éthiopienne des droits de l'homme, 2 semaines après la fin sans accord de négociation entre le gouvernement et l'armée de libération Oromo. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Écho avec Nani Talani.
En République démocratique du Congo, la GECAMIN veut obtenir les droits d'acheter du cuivre et du cobalt dans les mines où elle détient des participations pour tenter de constituer ses propres stocks et commercialiser les métaux. Cela devrait permettre à l'entreprise d'être directement impliquée dans la fourniture des métaux et minerais essentiels dont le monde a besoin dans le cadre de la transition vers l'énergie verte, explique Guy Robert Lukama, président de la GECAMIN. Le Mozambique s'attend à un déficit budgétaire de 10,4% de son PIB en 2024, sous l'effet du service de la dette, des réformes salariales dans le secteur public et des dépenses électorales, a déclaré ce mercredi son ministre des Finances, Max Tonela. Le déficit sera financé par des subventions extérieures, des prêts étrangers et des emprunts nationaux. Pour terminer, le Kenya prévoit d'obtenir un nouveau prêt de $1 milliard de la Chine pour régler en partie une obligation en euros qui arrive à échéance en juin prochain, a déclaré le gouverneur de la Banque centrale ce mercredi. Ce prêt marque un changement de position du président kenyan à l'égard des prêts chinois qu'il avait critiqués pendant sa campagne électorale en 2022.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Du football féminin pour commencer, on connaît les 12 pays qualifiés pour la prochaine CAN féminine Maroc 2024.
Oui, les derniers tickets ont été arrachés hier. 3 têtes d'affiche, le Maroc, pays hôte et finaliste l'an dernier, l'Afrique du Sud, championne en titre, et le Nigeria, 9 fois champion, la République démocratique du Congo, médaillée de bronze en 1998, et dont la dernière participation remonte à 2012, effectue son retour, tout comme le Ghana, finaliste en 98, 2002 et 2008, le Sénégal, le Mali, la Zambie, la Tanzanie, le Botswana, l'Algérie et la Tunisie seront aussi de la partie. Les grands absents de cette compétition sont le Cameroun, 4 fois finaliste, et la Guinée équatoriale, double championne d'Afrique. La date et le lieu du tirage au sort seront annoncés ultérieurement, selon la CAF, qui ajoute que la dernière finale de la CAN féminine entre le Maroc et l'Afrique du Sud a établi un nouveau record d'affluence avec 50 000 spectateurs. Le match a été retransmis en direct dans plus de 45 territoires, selon l'instance africaine du football.
D'une CAN à une autre, celle de la jante masculine qui aura lieu en janvier prochain en Côte d'Ivoire.
5 villes vont accueillir les matchs de cette 34e édition prévue du 13 janvier au 11 février 2024. Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo. Avec des fan zones dans chaque ville hôte, la compétition va permettre à la Côte d'Ivoire de construire un héritage en termes de services et d'infrastructures pour le sport, selon le président du Comité national d'organisation, François Albert Amichia.
Nous avons souhaité que l'après CAN, toutes les infrastructures sportives et non sportives qui auraient été mises en place, qui auraient été construites, puissent servir au développement, à la croissance du pays.
François Albert Amichia, président du Comité national d'organisation de la CAN 2023. Pour le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, ces infrastructures profiteront surtout à la jeunesse.
Nous avons eu pendant à peu près une quinzaine d'années, nous n'avions plus de stade en Côte d'Ivoire. Nous étions obligés d'aller jouer à l'extérieur pour les matchs de la Côte d'Ivoire. Le président a compris qu'il était important d'offrir à sa jeunesse un environnement et des conditions d'épanouissement. Le sport en général, le football en particulier, c'est un creuset où toute la jeunesse se retrouve. Donc ces infrastructures qui sont faites donc permettent déjà de créer un écosystème et une économie qui va se bâtir autour de ça.
Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football.
Des nouvelles du mondial de handball féminin au Danemark, en Norvège et en Suède.
Le Sénégal a battu hier la Chine 22-15, ce qui évite la dernière place du groupe A aux Sénégalaises. Après son match nul 26-26 contre l'Islande, l'Angola fait face à la Norvège.
Page des sports VOA Afrique, signée Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La Mauritanie et le Tchad prennent acte et respectent la décision souveraine de retrait du Burkina Faso et du Niger du G5 Sahel. Le Burkina et le Niger ont annoncé samedi avoir décidé de se retirer de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Pour analyser la désintégration du G5 Sahel, son bilan et ses perspectives, Mouamadou Mfa a joint Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network.
Pour moi, il s'agit d'une affirmation très souveraine, voire très nationaliste, qui vise à démontrer que si les partenaires internationaux n'ont pas réussi à venir à bout de l'insécurité dans la région, et notamment à s'en prendre de manière définitive aux racines qui alimentent le terrorisme, eux-mêmes seront capables de le faire.
Vous parlez justement de partenariat international. Effectivement, le Burkina et le Niger affirment que le G5 Sahel ne saurait servir les intérêts étrangers. Quel était le niveau d'implication des pays étrangers dans le fonctionnement du G5 Sahel? On parle par exemple du financement.
Ça a été tout le problème du G5 Sahel dès le départ, hein, c'est qu'il a dépendu de manière excessive de contributions extérieures et il a été fondé contre au départ une initiative qui rappelle celle de l'AES aujourd'hui et qu'il convient de rappeler, à mon avis. En 2014, les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso avaient formulé la volonté de mettre sur pied une force de 3000 hommes pour lutter contre le terrorisme qui serait rattachée à l'autorité pour le développement intégré du Liptako Bourma. Cette option n'a pas été soutenue par les partenaires internationaux qui ont préféré la solution poussée plutôt par la Mauritanie qui consistait à créer ce G5 Sahel. Et c'est essentiellement la France et l'Union européenne qui ont soutenu ce projet. Donc c'est une force conjointe et une organisation très dépendante des procédures budgétaires, logistiques, administratives des partenaires étrangers.
Quel bilan en faites-vous des activités du G5?
Malheureusement, il est très difficile de tirer un bilan positif et extrêmement visible de ce qui a pu être accompli. Les formations, les patrouilles conjointes, hein, mais il n'y a pas eu d'opération majeure qui ait été véritablement couronnée de succès. Il y a eu également des problèmes de chaîne de commandement avec des contingents qui sont souvent restés beaucoup plus responsables devant leurs propres états-majors plutôt que devant l'état-major intégré.
Que deviendra le G5 Sahel qui est finalement amputé de 3 des 5 membres?
Il devient très difficile à cette organisation de perdurer. Puis je ne pense pas que le G5 est un grand avenir, mais je pense qu'il faut aussi se méfier de l'enthousiasme qui entoure aujourd'hui l'AES, puisqu'à l'époque il y avait un enthousiasme similaire face au G5, et il faut se rendre compte que l'histoire africaine d'un point de vue institutionnel est celle d'une inflation, d'un embouteillage d'organisations multilatérales dont les mandats empiètent les unes sur les autres et qui sont extrêmement coûteuses. Donc, à mon avis, il faudrait avant tout rationaliser ce dispositif.
Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
En Mauritanie, la condamnation à 5 ans de prison de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz suscite des interrogations de la société civile et de ses partisans qui évoquent une possible dimension politique du procès. Le reportage à Nouakchott de Mohamed Diop.
L'écart de peine entre les 5 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite pour l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz et les 6 mois maximum pour seulement 2 de ses 10 co-prévenus soulève des interrogations au sein de la société civile, suscitant des préoccupations quant à l'équité du verdict. Mohamed Mahmoud Tolba, président de l'Organisation mauritanienne pour la transparence et la lutte contre la corruption. Et
je m'étonne que le Premier ministre, les concernés directs de la gestion des biens publics sont libres. Comment le président ne gère pas directement ces choses-là? Soit ils le font d'eux-mêmes, soit ils le font contre la loi quand le président ordonne. Un bon citoyen, un bon ministre, s'il est ordonné hors la loi, il refuse, il cherche un écrit. C'est pas le cas en Mauritanie.
Les partisans de l'ex-président affirment qu'il est ciblé pour être exclu de la prochaine élection présidentielle programmée dans moins de 2 ans. Mohamed Ould Gibril, ancien ministre de l'ex-président.
Malheureusement, c'est une personne qui est âgée et réside dans des conditions très difficiles. Il est isolé dans une prison et aujourd'hui, il faut rappeler que c'est lui la seule personne qui est en prison. Tous les autres ont été libérés. À partir de 318, on est arrivé à une seule personne. C'est la personne du président qui est visée. Donc ça se voit clairement que c'est lui qui est visé, qui est ciblé depuis 2019. Et il subit malheureusement, mais il résiste aussi en même temps et nous résistons avec lui. Et c'est ça notre force.
L'avocat de l'ancien président, Maître Talib Khayar, parle de violation de la loi.
La privation des droits politiques à l'envers de l'ancien président de la République, c'était un fait vécu et aujourd'hui, elle a été formalisée. Cette privation a été formalisée, elle figure dans une décision de justice alors que jusque-là, elle était de facto, elle existait de facto, en violation de toutes les lois de la République.
Les soutiens de l'État mauritanien accusent l'intéressé lui-même de politiser une affaire qui relève strictement du domaine judiciaire. Maître Brahim Ould Ebeti.
Monsieur Mohamed Abdelaziz a tout fait pour mélanger la politique dans cette affaire, pour croire qu'il s'agit d'un règlement de compte ou qu'une vengeance. Alors que aujourd'hui, deux infractions principales ont été tenues contre lui. L'enrichissement illicite avéré, parce qu'il a été incapable de prouver, de justifier l'origine de sa fortune.
Les avocats de l'ancien président ont un délai de 15 jours à compter du verdict pour déposer un appel. Et le processus d'appel devrait être conclu en moins d'un mois au maximum. Mohamed Diop pour VO Afrique, Nouakchott.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Congo-Brazzaville, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Pointe-Noire empêchent les habitants de vaquer librement à leurs occupations. Pourtant, ville pétrolière et capitale économique, Pointe-Noire ne dispose pas d'infrastructures routières et d'ouvrages d'évacuation des eaux. Les Ponténégrins réagissent à cette situation qui dure des années. Le reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Depuis 2 ans, cette chanson de Trésor Balembo qui est devenue virale évoque les grands dégâts de pluie dans les quartiers de Pointe-Noire. Hier mardi, les habitants de la ville pétrolière sont restés bloqués chez eux à cause d'une pluie diluvienne. Maître Gabi, avocat au barreau de Pointe-Noire.
Les bus, c'est des demi-terrains. Les taxis, ça monte finalement à 1500, 2000 francs parfois. Parfois, on vous dit clairement qu'on n'y va pas, surtout quand vous dites que non, c'est après le goudron. Ce n'est pas seulement les travailleurs. Tout cela qui bouge, quand ça pleut, c'est difficile. Et il y a des inondations, je ne vous dis pas.
Ferron et Naya, respectivement enseignants et commerçants, ont eu du mal à sortir travailler faute de transport.
Il a commencé à pleuvoir aux environs de 5h du matin jusqu'aux environs de 10h. Le quartier, pardon, m'a tenu carrément inondé. Il est quasiment aussi impossible de traverser ou de se déplacer facilement au centre-ville parce que toutes les routes sont bloquées par les inondations.
Effectivement, c'est une désolation pour nous, Ponténégrins, d'habiter une ville pétrolière pratiquement sans infrastructures, sinon avec des infrastructures vieillissantes qui, avec l'air du temps et des routes construites sans canalisation, des routes qui ne sont pas suivies. On ne parle pas des chantiers abandonnés, ça fait déjà plus d'une année. C'est quand même amer pour nous, Ponténégrins, habitants de la ville pétrolière de la capitale économique du Congo.
Ville de plus d'un million d'habitants, Pointe-Noire est la capitale économique du Congo, connue pour son activité pétrolière. Mais la ville manque cruellement des infrastructures routières et d'évacuation des eaux de pluie. Il y a 2 ans, le gouvernement avait promis réaliser des grands travaux pour épargner les Ponténégrins de ce calvaire. Mais jusque-là, rien n'est fait. Anaël Yeke, responsable du Centre d'action pour le développement, CAD, à Pointe-Noire.
Nous interpellons le gouvernement
sur ce que nous sommes en train de vivre, ça devient pire de jour en jour que le plan national de gestion des risques et des catastrophes puisse exercer comme il se doit.
Brazzaville n'est pas épargné par ces pluies, responsables de plusieurs glissements de terrain dans les quartiers. Le trafic entre Brazzaville et Pointe-Noire est coupé, les eaux ayant emporté un pont à la hauteur de la gare de Kielé-Thénard. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
À la COP 28 à Dubaï, la deuxième mouture du texte qui doit servir aux discussions en vue d'une adoption le 12 décembre a été rendue publique. Les désaccords sur les combustibles fossiles sont profonds. Trouver un compromis pour continuer à utiliser les énergies fossiles ou y mettre fin, le nouveau texte synthétise les options pour les quelques 200 participants à la conférence sur le climat dans la capitale des Émirats arabes unis. Yacouba Ouedraogo a joint dans le Maryland, ici aux États-Unis, Jean-François Seznec, économiste et analyste politique.
Les énergies fossiles sont toutes les énergies qui sont basées sur le carbone qui sort du sol, tout simplement, par exemple le charbon ou le pétrole, c'est les principales bien sûr.
À la COP 28 à Dubaï, ça coince au niveau des discussions, est-ce qu'il faut abandonner ou pas les énergies fossiles? Sur quoi les différents acteurs n'arrivent pas à s'entendre?
Simplement sur un seul mot, en fait. C'est sur le fait que, est-ce qu'on appelle ça une interdiction ou simplement une diminution? Si la COP 28 exige que, dans leur rapport, que les pays interdisent les énergies fossiles, ça va créer des problèmes énormes pour beaucoup de pays. Effectivement, ça aiderait certainement à diminuer la consommation, mais c'est pas forcément une très bonne chose à long terme. Si on dit simplement de diminuer l'utilisation, il faut aussi à ce moment-là que l'on dise aux pays de diminuer, de faire quelque chose qui est vérifiable. Sinon, ça ne voudrait rien dire. La bagarre, et bien sûr, sur le mot interdiction ou diminution, je ne sais pas comment ils vont résoudre ça, parce qu'en anglais, c'est phase out ou phase down. Ce n'est quand même pas des mots difficiles, mais la signification est vraiment très différente.
Est-ce qu'il est vraiment possible d'abandonner le charbon, le pétrole, le gaz?
Si vous voulez, c'est mon opinion personnelle, mais la réponse est non, c'est absolument impossible. On peut diminuer, certainement, et il faut que l'on diminue la consommation et l'offre, mais si on coupe l'offre complètement, les prix vont monter d'une façon extraordinaire, ce qui tuerait des pans entiers des économies du monde.
Est-ce que sur le continent africain où il y a le soleil, il y a le vent, il y a l'eau, c'est possible de passer directement, bien sûr, vers ces énergies renouvelables-là?
Ben non, pas vraiment, parce que, par exemple, si vous prenez, si on imposait un changement pour faire que des véhicules électriques, tout ça c'est très bien, mais il faut fabriquer les batteries, et les batteries viennent à 95% de la Chine. Donc, en fait, ce qu'on ferait, c'est remplacer un import par un autre import, si vous voulez. Donc, je pense que ce serait effectivement une très mauvaise chose pour l'Afrique. Mais il faut bien sûr diminuer la production et diminuer la consommation. Mais il faut faire ça à quand même très long terme et ne pas imposer trop, surtout à l'Afrique, parce que les coûts vont être énormes.
Jean-François Seznec, économiste et analyste politique. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.